L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre émission L'AJT du local, en compagnie de Claire. Bonjour Claire.
Bonjour Marie, bonjour tout le monde, toujours en direct à Laval. Pas eu besoin de dégivrer ma voiture ce matin, ça fait plaisir.
Et non, mais par contre, il pleut. Super. Oui. Mais oui, effectivement, moins froid aujourd'hui. Aujourd'hui qui est donc le 27 janvier, la journée internationale pour la mémoire de l'Holocauste. Justement, tu t'es entretenue à cette occasion avec l'un des bénévoles de l'association du Mémorial des Déportés à Mayenne, on va l'entendre. On évoque aussi une nouvelle manière d'aménager et de construire un lieu commun avec un maître mot, la concertation. C'est le leitmotiv du collectif du 2-4 à Pré-en-Paille. Et la chronique de Soisy qui est consacrée aujourd'hui à un rapport officiel qui parlait d'une épidémie mondiale. Un rapport publié en 2019. Oui, oui, vous avez bien entendu.
Mais tout de suite, Marie, un point sur l'actualité des hospitalisations en hausse en Mayenne.
Et notamment à l'hôpital de Laval, une situation tendue selon le directeur, alors que 77 patients sont hospitalisés pour la Covid, dont 9 en réanimation. Un cluster a été repéré dans un EHPAD lavallois et 5 résidents sont toujours hospitalisés pour une forme assez grave du Covid, alors même qu'ils avaient reçu la première injection du vaccin. Les soignants en profitent pour rappeler l'importance d'une deuxième injection. La semaine prochaine commencera justement cette deuxième injection pour les EHPAD dépendants du centre hospitalier. Le but, c'est que tous les résidents qui le souhaitent soient vaccinés à la fin du mois de février. À ce jour, au total, près de 6200 personnes ont été vaccinées dans le département. Et point positif, le virus circule un peu moins vite. On compte 132,3 cas pour 100 000 habitants.
Un homme recherché pour meurtre, en Corse, interpellé dans un squat en Mayenne.
L'homme de 35 ans est accusé d'un meurtre à l'arme blanche à Ajaccio. Il a été interpellé hier après-midi dans un squat à Laval. Un mandat d'arrêt avait été lancé contre lui. Le meurtrier présumé devrait être incarcéré à Rennes ou à Laval. Avant son transfèrement en Corse, il risque jusqu'à 20 ans de prison.
Au fond de la rue, présent dans les discussions avec Rosine Bachelot.
La coordinatrice du festival, Lisa Bélangeon, va assister à la rencontre prévue ce vendredi avec la ministre de la Culture, aux côtés évidemment d'autres acteurs du monde culturel. Une fierté pour Lisa Bélangeon qui dit représenter les festivals ruraux, associatifs de taille modeste, essentiels et bien déterminés à ouvrir.
Et un appel à témoignages.
Après le reportage sur Nathalie Bahuot tourné à Château-Gontier, une journaliste de l'agence Cap Après cherche de nouveaux témoignages. Souvenez-vous, le reportage a été diffusé il y a quelques semaines dans Grand Reportage, l'émission sur TF1, avec le portrait de cette castro-gontérienne qui cherchait sa mère biologique. Cette fois-ci, Naomi Moschini prépare un documentaire sur les familles recomposées pour raconter leur quotidien. Si vous vous sentez concerné, vous pouvez la contacter par mail à nmoschini@capatv.com.
5 artistes au sieste musical à Mayenne.
L'événement porté par l'équipe du festival Un singe en été se déroulera le dimanche 13 juin au Grand Nord. La programmation est à l'image du festival, un mélange d'électro, de pop et de musique contemporaine avec Lucie Antounès, La Battue, Insi, Oreilles Confites et Minilab.
Et du suspense jusqu'au bout pour l'arrivée du Vendée Globe.
Les premiers skippers à boucler leur tour du monde devraient arriver ce soir au Sable d'Olonne. Charlie Dalin est toujours en tête, suivi de très près par Louis Burton et Boris Herman. Mais le premier à franchir la ligne d'arrivée ne sera pas forcément le vainqueur de la course, puisqu'il ne faut pas oublier les bonifications de temps accordées aux skippers qui ont participé aux recherches de Kevin Escoffier, Boris Herman et Yannick Bestaven, qui est cinquième, en font d'ailleurs partie.
Et aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale de la mémoire de l'Holocauste et de la prévention des crimes contre l'humanité, nous retrouvons Alavio pour évoquer les événements au sein de l'association du Mémorial des Déportés de la Mayenne, dont il est membre du comité d'administration.
Le mémorial, malheureusement, est fermé en ce moment, comme tous les espaces muséographiques. Hein. Donc, il n'y a pas de choses particulières, contrairement à ce qui aurait dû se faire, puisqu'il devait y avoir une conférence. C'était avec Carole Lemay, hein, qui était une professeur d'université de Bordeaux qui a travaillé beaucoup sur sur la Shoah. Ceci dit, c'est pas pour autant que il ne se passe rien. Au contraire, il y a beaucoup de choses qui sont réalisées, beaucoup de travail au niveau du mémorial. Notamment, il y a toujours des interventions dans le milieu scolaire, hein, qui est le cas également en temps normal. La présence notamment de salariés, voire de bénévoles, vers les collèges et les lycées où on fait un atelier pédagogique ou faire simplement une présentation du mémorial, présenter des témoignages de déportés. Deuxième type d'intervention qui se fait, c'est dans le cadre du temps d'accueil périscolaire où nous sommes investis sur la ville de Mayenne, notamment d'écoles primaires, hein, autour de petites animations sur le thème de la paix ou du devoir de mémoire. Autre élément également que l'on propose actuellement, ce sont des expositions itinérantes. Hein. On a un certain nombre d'expositions qu'on a réalisées depuis plusieurs années et ces expositions sont prêtées à un certain nombre d'établissements scolaires. Et donc actuellement, il y a des établissements scolaires, notamment des collèges ou des lycées, qui présentent à leurs élèves donc des expositions. Également aussi, le mémorial peut être ouvert dans certains cas très précis, c'est-à-dire qu'en fait, on peut vendre un certain nombre de livres, de revues, de documents dans la boutique du mémorial, et il suffit d'appeler, et sur réservation, on peut venir chercher, comme dans des bibliothèques, on peut venir chercher des documents qui intéressent, et notamment venir rechercher le dernier cahier qui a été publié par le mémorial au mois de décembre, qui traite de la résidence et la déportation à Ambrières-le-Grand et dans ses environs en 1943-1944. Donc, autant vous dire qu'on a beaucoup de travail, et pour cela, d'ailleurs, on recrute régulièrement, parce que justement, pour mener toutes ces actions, même en temps de confinement, eh bien, on a besoin d'un certain nombre de personnes qui interviennent sur différents dossiers. C'est très important de maintenir ce lien dans le cadre de nos activités, hein, et par rapport aux actualités, il est important de maintenir effectivement ce travail. Hein. Il ne s'agit pas de l'abandonner, au contraire. On arrive à maintenir, si je puis dire, les deux volets de notre travail de mémoire. C'est à la fois la mémoire, l'espace mémoire proprement dit, donc par justement la présentation de tout ce qu'on trouve au mémorial au travers justement de la page YouTube par exemple, qui permet de montrer effectivement au travers des animations ce qu'on peut trouver au mémorial, et puis aussi le deuxième volet qui est essentiel, qui est le volet vigilance, hein, où on cherche à sensibiliser autour de la mémoire effectivement des déportés mayennais, hein, dans les camps de concentration et d'extermination. Globalement, l'objectif du mémorial, c'est de défendre les valeurs de la paix et de la tolérance et défendre les droits de l'homme.
Si vous êtes intéressé par le cahier à propos de la résistance et de la déportation à Ambrières-le-Grand, n'hésitez pas à réécouter le reportage que Marie avait réalisé le 18 décembre 2020. Il est à retrouver en podcast sur notre site internet. Le mémorial des déportés et de la Mayenne est aussi très présent sur YouTube et Facebook. À suivre donc.
Et puis on peut noter aussi que le mémorial cherche à engager un service civique à partir du 9 mars, une mission à 24 heures semaine pour aider à la réalisation de supports pédagogiques et de communication. Aménager un lieu en consultation avec ses usagers. On va reprendre donc un lieu en consultation avec ses usagers. Ça prend du temps, cet aménagement, mais c'est valorisant et c'est le choix qui a été fait après Empaille par le collectif 2-4. On en parle après la pause, le temps d'écouter Papoose, Good Times on Earth.
Good times on Earth. Good times.
C'était Papouze avec Good Times on Earth sur l'autre radio. Coup d'envoi du festival Habitez-là, ce sera le 6 février, la 5e édition de l'événement du festival donc Habitez-là, qui est organisé par le collectif 2-4 après Empaille. L'objectif final, il y a des jours comme ça, c'est compliqué. Hein. L'objectif final, c'est de réhabiliter la friche municipale investie par le collectif. Le tout en misant, donc, vous l'avez compris, sur des concertations avec des usagers, des habitants et des élus. On détaille justement le projet avec l'architecte du projet 2-4.
Alors, moi, je suis Bénédicte Mallier. À l'origine, membre du bureau de Payasso Locaux, j'ai une structure qui s'appelle le cabinet des Miller et qui fait de la concertation en architecture et urbanisme et qui fait partie du collectif 2-4 après Empaille.
Est-ce qu'on explique peut-être quand même le collectif 2-4, ce que c'est en quelques mots ?
Oui, le collectif 2-4, c'est un groupement informel de, à la base, deux associations, Payasso Locaux et le Secours Populaire de Pré-Empaille, et qui a été rejoint depuis quelques années maintenant par des coworkers et qui investissent un lieu, une friche de 1000 m² dans le centre-bourg de Pré-Empaille depuis 8 ans maintenant.
Et donc, collectif qui est aussi à l'origine du festival Habitez-là, la 5e édition qui a déjà commencé depuis quelques jours, qui justement travaille aussi autour de cette... Donc c'est un festival d'architecture et d'urbanisme en milieu rural, c'est comme ça en tout cas qu'il est présenté. Et alors vous intervenez dans ce festival, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quelle manière ?
Moi, je suis architecte de formation et du coup, mon rôle dans ce festival-là, c'est d'animer la concertation, c'est-à-dire de prendre les avis, les besoins de tous les usagers du lieu, mais aussi des habitants alentours qui auraient des envies par rapport à ce lieu-là et des élus du territoire, et de les écouter, de les entendre, de les mettre en forme, de les synthétiser et ensuite de les confier à l'équipe d'architectes ou de maîtres d'œuvre ou de paysagistes, de designers qui devra dessiner les transformations du lieu, qui ensuite seront effectuées par les bénévoles en chantier participatif.
Puisque justement on parle de cette réhabilitation de la friche municipale dont vous parliez tout à l'heure, c'est ça ?
Ouais, en fait, petit à petit, on a fait le choix. Donc, on est des associations, on a des moyens limités, on est soutenu par de multiples partenaires, dont la commune qui nous met le lieu à disposition. Et tous les deux ans, avec Habitez-là, c'est l'occasion pour nous de reconsidérer nos usages dans le lieu, à travers aussi les actions que font les associations, les coworkers. Donc, c'est un collectif qui évolue perpétuellement et qui, du coup, se réinterroge un peu tous les deux ans sur ses besoins. Et ça devient le prétexte à réhabiliter le bâtiment petit à petit. Donc c'est parfois des actions très techniques, changer des fenêtres, avec des fenêtres de récup, on essaye beaucoup d'être dans l'économie circulaire, etc. Mais ça peut aussi être recréer des espaces de rencontre dans le lieu, améliorer les conditions d'accueil, etc. Et donc tous les deux ans, on modifie le lieu petit à petit qui du coup se réhabilite au fur et à mesure.
Et donc, ce qui est aussi très important, c'est ce que vous le disiez, c'est d'ailleurs votre mission, c'est vraiment cette concertation avec les usagers, les habitants, les élus du territoire. Comment on organise justement cette concertation ?
Alors, c'est justement, Habiter là, c'est un super terrain d'expérimentation de toutes ces méthodologies-là. Moi, je suis chargée d'animer la concertation, mais je développe les méthodos aussi en dialogue avec les associations, etc. Et donc le but, c'est de mettre en place des outils qui permettent à chacun de s'exprimer de la même manière, ça d'effacer un peu les différences, les leaderships, etc., même s'ils existent toujours, grâce à des outils qui sont assez facilement appropriables, plutôt ludiques, etc. Et donc comme ça, chacun peut redonner son avis, reprendre sa place dans le projet, parce que ici, tout le monde compte et c'est un fonctionnement horizontal et on essaye de prendre en compte la parole de tout le monde. C'est jamais facile, mais du coup, on a choisi, nous, de faire d'un côté des concertations qui sont pour les usagers, de l'autre côté des concertations qui sont pour les habitants et les élus et qui sont donc plutôt extérieures au lieu. Et puis à la fin, on fait des concertations où tout le monde se réunit et où du coup, on prend des décisions collectives en fonction des enjeux soulevés par les différents partis qui sont liés à ce lieu-là. Voilà. Et donc ensuite, moi, grâce à ça, grâce à toutes les données qui ont été récoltées, aux décisions qui ont été prises et aux priorités qui sont apparues, je rédige ce qu'on appelle un cahier de préconisation qui, en fait, se fait un peu le lien entre la parole des usagers qui a un langage particulier et la parole et le langage des architectes qui est aussi un langage particulier. Le fait que moi, je parle un peu les deux. Ça permet de gagner du temps et de transmettre des informations et de s'assurer que le projet qui est dessiné soit en adéquation avec les attentes des gens qui y habitent et qui font vivre le lieu, en fait.
Et est-ce que, en tout cas, lors de ces premières réunions de concertation, vous arrivez quand même avec, comment dire, un minimum de cadre ou pas du tout, vraiment c'est très libre et chacun peut donner vraiment son avis sur les ce qu'il aurait envie, en tout cas, pour cette réhabilitation de la friche.
En fait, moi, je pars du principe qu'il n'y a pas de concertation sans cadre. Enfin, une concertation qui ne poserait pas une question serait plutôt vouée à l'échec. Enfin, c'est une posture que j'ai adoptée au fur et à mesure de l'expérience. Mais ça, c'est valable aussi sur l'échelle de concertation de centre-bourg ou à des plus grosses échelles. C'est qu'il faut une question à poser parce que sinon, les gens ne savent pas ce qu'on leur demande et forcément ça va dans tous les sens et on est difficilement satisfait parce qu'on arrive difficilement à obtenir une réponse commune. Dans le cadre d'Habiter là, c'est particulier, on fonctionne sur des thématiques de réflexion. Donc il y a deux ans, on a beaucoup travaillé sur l'accueil et cette année, on a choisi pour Habiter là de travailler sur la notion de lieu commun. Et donc ça, c'est le thème de la concertation. Donc tout le monde arrive là en sachant qu'on va réfléchir là-dessus, en sachant que c'est extrêmement large, en l'occurrence lieu commun. Donc là, on a déjà effectué les deux premières séances de concertation et on s'est réinterrogé sur quels espaces on partage, à quel moment, pourquoi, qui partage et quels espaces avec qui. Et donc, qu'est-ce qui fait commun dans ce lieu, qu'est-ce qui fait pas commun dans ce lieu. Et du coup, à travers un petit jeu sur le 2-4 à tous les moments de la journée et à tous les moments de la semaine, on est en train de réécrire ensemble l'histoire de ce lieu-là au quotidien pour redéfinir les communs et puis du coup se poser la question de ce qui fonctionne et de ce qui fonctionne pas. Et donc c'est à partir de ce diagnostic partagé qu'ensuite on pose les problèmes. Les gens arrivent pas avec une somme de problèmes, on fait d'abord un diagnostic ensemble et les problèmes émergent de ce diagnostic-là. Même s'il y a toujours des urgences techniques qui sont prises en compte aussi, du style il y a une fuite d'eau quelque part, ou ça ne les exclut pas, elles sont sur le côté. Mais en tout cas, pour avoir une décision commune, il nous faut un problème commun. Et pour avoir un problème commun, il faut avoir fait le diagnostic ensemble. Et donc, c'est comme ça qu'elle fonctionne, la concertation ici.
Et qu'est-ce qui en est sorti, justement, de ces deux premières réunions pour le moment ?
Ce qui est ressorti, là, par exemple, c'est que En fait, en analysant l'usage des lieux, on s'est rendu compte que bien qu'on soit des entités différentes, qu'il y ait paillasses locaux, le secours populaire, les coworkers, on avait des valeurs communes qu'on mettait en action dans ce lieu-là, telles que l'accueil, le partage, l'imagination, enfin des choses qui sont ressorties comme ça après plusieurs heures de débat. Et du coup, on les a resitués dans le lieu en se disant à quel endroit dans ce lieu-là on aide les gens, à quel endroit on les accueille, à quel endroit on rigole, à quel endroit on partage, à quel endroit on travaille. Et on s'est par exemple aperçu hier qu'on avait des valeurs communes, on avait un lieu commun, mais finalement on avait encore très peu d'espace réellement partagé. C'est-à-dire qu'il y a une asso dans un lieu à un moment, l'autre asso dans un lieu à un autre moment, mais il y a finalement, à part les événements qu'on crée ensemble, très peu de temps quotidien réellement commun sur le lieu. C'est une des choses qui a émergé hier et qui nous a sauter à la figure comme si c'était une évidence, et en même temps c'est tout ce travail-là qui nous a fait nous en rendre compte, et du coup ça pose de nouvelles questions. On est plutôt en train de réfléchir à des temps communs qu'à des lieux communs, enfin du coup ça fait évoluer la discussion comme ça. Là c'est en interne, l'ouverture officielle d'Habiter Là c'est le 6 février, donc il va y avoir à partir du 6 février ça continue, il y a encore deux concertations d'usagers, il va y avoir deux concertations avec les élus plus une concertation où on va être tous ensemble. Donc ça s'étale jusqu'au mois de février. Après, en mars, il y a l'architecte Guénolé-Jézéquel de Rennes qui va venir pour se servir de nos préconisations pour proposer des interventions dans le lieu. Et en avril, on met tout ça en chantier et on construit ce dont on a besoin suite à ça. Donc ça s'étale jusqu'à la fin du mois d'avril. Et on nourrit tout ça d'un cycle de conférences et d'interventions artistiques dans l'espace public et dans les vitrines du village, etc., pour essayer d'alimenter aussi notre pensée de regard extérieur, sensible, différent, et nous faire aussi évoluer sur notre vision du lieu et du territoire dans son ensemble à travers ce projet-là.
Donc beaucoup de ce que j'ai l'impression, beaucoup de remises en question, aussi de volonté de travailler en commun. Est-ce qu'il n'y a pas quand même cette crainte que de visions divergentes pour un même lieu et donc de parfois difficulté à se mettre d'accord ?
C'est pas une crainte, c'est une richesse. je dirais pas qu'il y a une crainte. Non, enfin, en plus, le fait qu'Habiter Là, ce soit la 5e édition, on a quand même une culture de la concertation dans ce lieu qui fait que tout le monde est assez confiant. Enfin, les premières éditions, peut-être se sont fait plus dans la crainte, notamment par rapport à l'intervention des architectes extérieurs, en se disant mais ils sont pas d'ici, ils vont pas comprendre et tout. Maintenant, il y a quand même un climat, à mon avis, de confiance qui existe parce que c'est une aventure humaine assez riche et convivial aussi, et qu'on se rend compte qu'on peut prendre des décisions communes et que ça se passe bien. Enfin, en tout cas, c'est vrai qu'on sait jamais comment ça va finir et que c'est un projet compliqué à mener parce qu'on sait jamais ce qu'on va construire. Mais en tout cas, toutes les éditions précédentes nous ont montré que, au contraire, tout ce protocole, toute cette démarche favorisait l'appropriation des transformations par le plus grand nombre, et ça générait plutôt de la satisfaction que de la mésentente. Parce que tout le monde a suivi le processus, il y a quelques exceptions, toujours évidemment dans un groupe de gens, mais en grande majorité, comme tout le monde a compris pourquoi les décisions étaient prises, même ceux qui seraient pas forcément d'accord complètement avec la décision finale l'acceptent pleinement. Parce qu'il a compris que c'était l'intérêt général qui l'avait généré, et donc ça se justifiait, et donc il prend même part à sa construction. Sur une échelle de projet comme celle-là, vraiment ça fonctionne très bien, parce que on est quand même assez peu, enfin c'est assez gérable quoi, et donc tout le monde peut s'y retrouver quoi. Encore une fois, je dis pas qu'il y a pas des individus qui auraient un discours autre que le mien. Je c'est à tempérer évidemment, mais il y a quand même une énergie collective ici et une fierté à la fin de chaque Habiter Là d'avoir fait nous-mêmes et d'avoir décidé ensemble, qui est une belle énergie et qui fait qu'il n'y a pas trop de discorde.
Oui, parce qu'effectivement, à l'inverse de ce que je disais avant, il y a certainement aussi cette satisfaction de voir que on s'est concerté il y a quelques mois, et là ensuite en avril on pourra voir concrètement ce que ça représente.
Je disais que le chantier c'était fondamental parce que ça amenait nos réflexions vers le concret, et que ça, pour pour fédérer les gens, c'est quand même très important. Si on n'avait que des discussions de fond, de valeurs, de philosophie du lieu, on finirait par perdre des gens qui sont moins intéressés par ça. Mais le fait que ça se transforme en construction d'un mobilier, d'un espace, ça fait que tout le monde voit où ça va et tout le monde aussi, ça motive, quoi. Et puis en plus, le chantier, c'est une fête. On mange ensemble tous les midis, on fait ensemble, les petits, les grands, les vieux, tout le monde a sa place. Donc c'est ce qui fait que ça marche, qu'on construise à la fin.
Vous disiez c'est facile parce que ce chantier participatif, on est peu nombreux, enfin en tout cas pas très nombreux. Est-ce que ça, selon vous, ce serait possible d'avoir la même démarche dans une ville peut-être plus importante ou avec un nombre de personnes plus important autour de la table?
Alors, le chantier, on peut être très nombreux. Si tu parlais de la prise de décision, oui, ça s'adapte à des échelles différentes de projets. Simplement, là, l'avantage de cette échelle-là, c'est que vraiment, on peut... Enfin, moi, je suis considérée comme architecte en permanence architecturale dans le lieu. J'habite là, je travaille là tous les jours, donc j'ai une connaissance sans doute plus fine du lieu et des individus qui l'habitent. Et peut-être que ça m'aide à saisir les enjeux, enfin, et en tout cas à les traduire de la meilleure manière qui soit. Mais ça, c'est une méthodologie qui émerge à l'échelle du territoire. Enfin, la permanence architecturale, c'est quelque chose qui est développé ailleurs. Après, ça n'empêche pas de cette méthodologie aussi que maintenant on déploie à des échelles de centre-bourg, de quartier de ville. C'est pas parce qu'il y a plus de monde que c'est pas possible. Je pense juste que ici, ça nous offre un confort de discussion et d'action qui est extrêmement favorable. C'est incroyable la capacité d'action qu'a un groupe de gens motivés, convaincus et accompagnés, quoi. Enfin, nous, on n'en revient pas à chaque fois. On est surpris de ça et de comment le lieu, en juste 2 semaines, peut progresser grâce à l'énergie collective.
Le chantier du 12 au 24 avril est ouvert à tous, comme les consultations des 12 et 19 février prochains. N'hésitez pas à vous inscrire au 02 43 08 23 74 ou par mail à julie@collectif2-4.org. On revient d'ici quelques minutes, juste après une petite pause musicale assurée par Kabadzi avec son morceau « Lâchons-les ».
Écrans, ils sont comme ces nuées de papillons blancs que l'ampoule envoûte. Et les morts télévisés deviennent aussi insignifiants que les publicités. Regarde-les bien, qu'ils baisent, qu'ils bossent, qu'ils mangent, qu'ils marchent, ils dorment. Soyons fous, lâchons-les, lâchons tout. À quoi bon défiler dans les rues quand on vote comme un con? Ça dit oui, ça dit non, idéaux en girouette. À ma droite la maison, à ma gauche la pension. Et après ça s'étonne, ça se plaint plus. Je connais l'homme plus, j'aime les chiens. Ça s'étonne, ça se plaint plus. Je connais l'homme plus, j'aime les chiens. Lâchons-les, lâchons tout, fuyons. Lâchons-les, lâchons tout. Soyons fous, lâchons-les, lâchons tout. Lâchons-les, lâchons tout, fuyons. Lâchons-les, lâchons tout, fuyons. Soyons fous, lâchons-les, lâchons tout. Ça veut de l'immédiat, exister sans idée. Ça prend pas position, aboyer dans un stade, aduler un biceps, crier. On a gagné alors qu'on est resté le cul devant sa télé. Quand on donnera à la pensée ce qu'on donne au ballon, oui. On aura sauvé la nation, mais pour l'instant, ça s'étonne, ça se plaint plus. Je connais l'homme plus, j'aime les chiens. Ça s'étonne, ça se plaint plus. Je connais l'homme plus, j'aime les chiens. Ça s'étonne, ça se plaint plus. Je connais l'homme plus, j'aime les chiens.
Lâchons-les, lâchons tout, fuyons. Lâchons-les, lâchons tout, fuyons, soyons fous. Lâchons-les, lâchons tout. Lâchons-les, lâchons tout, fuyons. Lâchons-les, lâchons tout, fuyons, soyons fous. Lâchons-les, lâchons tout. Lâchons-les, lâchons tout, fuyons. Lâchons-les, lâchons tout, fuyons, soyons fous. Lâchons-les, lâchons tout.
C'était Cavazzi jusqu'au bout, jusqu'à la dernière note sur l'autre radio. Vous écoutez toujours l'agité du local. Et aujourd'hui, dans un autre écho de l'écho, une chronique étonnante que nous propose Soizic, bien documentée et qui donne, vous allez l'entendre, à réfléchir sur la pandémie que nous connaissons aujourd'hui. Soizic, bonjour. On va parler aujourd'hui dans un autre écho de l'écho du rapport du comité de préparation.
Bonjour Marie, et oui, on le savait, mais on n'a rien fait. La zoonose n'est pas tombée du ciel. C'est ce que titraient les Échos mercredi dernier. Alors, l'article relatait les conclusions du rapport de l'organisme de préparation aux risques sanitaires, que je ne connaissais pas, et qui est une émanation du FMI et de l'OMS, l'Organisme mondial de la santé. Et ce rapport est intitulé de façon assez terrible « Le monde en péril ». Et il est daté, et c'est très important, de septembre 2019. Alors, intrigué, je suis donc allé voir le dit rapport. Vous tapez « Le monde en péril » sur Internet, il est en consultation libre. Et là, tenez-vous bien Marie, j'ai eu l'impression que le rapport décrivait exactement la situation actuelle et que sa date de parution n'était pas celle de septembre 2019, mais celle de septembre 2020. Alors, la première partie fait un diagnostic et m'apprend qu'entre 2011 et 2018, l'OMS a suivi 1483 épidémies dans 172 pays pour un coût évalué à 18% du PIB mondial. Rien que ça. Fort de ce constat, le rapport continue et là je cite « Le spectre d'une croissance sanitaire mondiale plane aujourd'hui dangereusement. » Septembre 2019, hein, je rappelle. Je continue. La menace est bien réelle de voir un agent pathogène respiratoire entraîner la propagation rapide d'une pandémie à forte mortalité, capable de tuer 50 à 80 millions de personnes et d'effacer près de 5% de l'économie mondiale. Je continue le rapport. Une pandémie mondiale de cette ampleur serait catastrophique. Elle entraînerait des dommages considérables, une grande instabilité et une insécurité généralisée. Le monde n'y est pas préparé. Je continue encore parce que je trouve ça véritablement incroyable. Le monde risque fort de connaître des épidémies ou des pandémies régionales ou mondiales dévastatrices et qui non seulement causeraient la perte en vies humaines, mais aussi bouleverseraient les économies et engendreraient un chaos social. Cette vulnérabilité est accentuée par la croissance de la population, l'urbanisation, l'intégration économique mondiale et la généralisation des voyages. En matière de pandémie, nous avons depuis trop longtemps laissé évoluer un cycle de panique et de négligence, poursuit le rapport. Nous renforçons les efforts quand une grave menace se présente, puis les relâchons rapidement quand elle s'atténue. Il conclut, il est grand temps d'agir.
Le moins qu'on puisse dire, Soizic, c'est que la Covid-19 n'est pas une surprise pour tout le monde.
Eh bien non, Marie, c'est incroyable. Alors, le rapport continue avec une seconde partie, que je vous laisse vraiment aller voir, c'est très très intéressant, hein, dans laquelle l'organisme développe les mesures à prendre d'urgence avant la survenue d'une épidémie. Et surtout, il répète plusieurs fois, surtout au cas où il s'agirait d'une pandémie liée à un agent pathogène respiratoire. Avait-il une boule de cristal? Je ne sais pas. La première mesure indispensable, nous dit le rapport, est de déclarer la santé bien commun mondial. Alors ça, c'est parfaitement révolutionnaire parce qu'il faut savoir qu'en économie, un bien commun, c'est un bien qui n'a pas de prix. Hors de question donc pour l'organisme de laisser le marché réguler les remèdes d'une pandémie. Il préconise au contraire de mutualiser toutes les recherches et les découvertes de vaccins et autres antiviraux. On voit bien qu'évidemment, ça n'est pas ce qui a été fait. Ensuite, l'organisme invite les gouvernements à se doter au plus vite d'une politique de recherche vaccinale solide, de façon à rendre les laboratoires opérationnels dès que possible sur une recherche de vaccins et de séquençage du génome. Tous les pays ne l'ont pas fait non plus. Enfin, l'organisme invite les gouvernements à anticiper la catastrophe économique par des réserves financières qui seraient allouées pour pallier la période endémique. Alors, curieusement, dans le rapport, les bons élèves cités, qui ont suivi plus ou moins les préconisations, sont surtout des pays africains, ce qui se comprend puisqu'ils sont plus habitués aux pandémies, l'Asie, mais également la Norvège et l'Allemagne, pays qui auraient mis donc en place le plus de mesures préventives. Et ce qui est curieux, c'est que ce sont également dans ces pays que la pandémie a été le moins prégnante. Alors, est-ce que c'est un hasard statistique ou une relation de cause à effet? Les études à venir permettront sans doute d'y voir plus clair. Alors évidemment, en lisant ce document, j'avais les yeux ronds comme des soucoupes. Je n'en revenais pas d'avoir un rapport ô combien institutionnel, aussi prédictif et aussi précis dans la description du monde dans lequel nous vivons exactement aujourd'hui.
Alors, que peut-on retirer de ce rapport?
Eh bien, trois conclusions, me semble-t-il. Alors, la première, c'est que même quand nous sommes prévenus, eh bien, le court-termisme l'emporte toujours dans la gouvernance de nos sociétés. Et on va pouvoir dire que tant que la musique joue, eh bien, la danse continue, quitte à en malheureusement mourir. La deuxième leçon tient bien évidemment dans le parallèle avec la crise écologique. Comme disait Chirac, la maison brûle, on le sait très bien, mais nous continuons de regarder ailleurs. Alors, aïe aïe aïe, quand on sera le dos au mur. Et enfin, ce qui m'interroge également dans ce rapport, mais comme dans la politique de lutte contre le virus de façon générale aujourd'hui, ou dans les remèdes à la crise écologique, c'est l'absence de politique de prévention. Par exemple, nulle part n'est mentionné l'arrêt de l'interpénétration du monde humain et du monde animal, ni non plus la lutte contre les causes de comorbidité, comme l'obésité, dont on sait qu'elle concerne la moitié des personnes en réanimation. Alors vous savez, vous, pourquoi, Marie, on ne trouve pas cela dans les rapports officiels? Non? Eh bien, rassurez-vous, Marie, parce que moi non plus.
Et voilà qui est assez impressionnant, assez inquiétant aussi, mais en tout cas qui nous donne à lire, puisque cette chronique est bien évidemment documentée, notamment sur Les Échos. Je vous invite à la réécouter sur notre site l'autreradio.fr. Merci Swazik, en tout cas vous serez de retour à l'antenne désormais la semaine prochaine. C'est l'heure désormais de notre rubrique Initiative Claire. Un peu de légèreté, on part du côté de Laval où un service exceptionnel est mis en place pour ceux qui souhaitent se déplacer après 19h.
Et oui, c'est le service de soirée du réseau Tulle. Dû au couvre-feu, tous les services de transport sont supprimés après 19h, mais si vous travaillez, vous pouvez faire appel à un taxi ou bus spécialement pour vos déplacements. C'est un service disponible du lundi au samedi de 19h à 21h30. Au tarif habituel du réseau, il faut réserver 24 heures avant en appelant le 02 43 54 00 00.
Et puis le premier skipper du Vendée Globe devrait arriver ce soir. Et pourtant, Claire, nous n'avons pas suivi la course de Sébastien Lacombe.
Et oui, normal, ce Nantais de 48 ans a décidé de faire la course chez lui et sur Instagram. Pendant 68 jours, il s'est photographié avec son ciré jaune. Avec la complicité de ses enfants, il se met en scène. Un moyen de s'occuper en famille. On le retrouve par exemple affrontant vents et marées, en fait avec un jet d'eau en guise de pluie. Et ma préférée, regardant la mer à travers le hublot de sa machine à laver. Bref, des publications pleines d'humour à retrouver sur son compte Instagram Vendée Globe tout attaché, tiré du bas à... tirer du bas là, tirer du bas maison.
Et oui, merci beaucoup Claire en tout cas. Voilà, on peut être aussi un aventurier de chez soi, hein. Ça marche aussi, la preuve en tout cas, avec ces photos. Merci beaucoup. Et puis voilà, juste toujours le petit rappel en fin de chronique. Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Twitter, tapez l'autre radio. Merci beaucoup Claire, puisque c'est la fin de cette émission du 27 janvier.
Merci Marie, merci tout le monde et à demain déjà.
Oui, on se retrouve demain, mais avant, à suivre à l'antenne, il y a à 19h Novorama, à 21h Tarrant's Jazz Hour. Nous, sinon, on se retrouve demain à 12h15. Très bonne journée à tous.
Reportage, invité, interview. Voilà, c'est la JT du local.